Quelqu'un a dit « Avoir la foi, c'est avoir des ailes ». Il est vrai que la foi opère au-delà des cinq sens que nous possédons. Elle voit l'invisible, entend l'inaudible, touche l'intangible et passe à l'action pour accomplir l'impossible. Je continue à lire dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Par la foi, pour Sarah, qui depuis longtemps avait dépassé l'âge de concevoir, Abraham reçut la force de déposer la semence. Sarah fut alors convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. Verset 11. Pour traduire cette phrase difficile, il faut prendre en compte le récit de la Genèse selon lequel Sarah n'avait guère de foi et était plutôt du genre à prendre les choses en main. Elle a donné sa servante Agar à son mari afin qu'il en fasse un ventre porteur d'où est né Ishmaël, l'ancêtre des Arabes. Cependant, Abraham, lui, a eu la foi pour sa femme et pour lui-même afin que naisse le fils de la promesse. L'Éternel passa donc outre l'incrédulité de Sarah, honora la foi d'Abraham et Isaac naquit. C'était vraiment une naissance miraculeuse parce que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant pour deux raisons. Elle avait toujours été stérile et quand Dieu a dit au vieux couple que l'année suivante ils auraient un fils, Sarah avait alors 90 ans et Abraham 99. Ils avaient donc dépassé l'âge de concevoir depuis longtemps. Il faut retenir qu'ici encore, c'est la foi d'Abraham que l'auteur met en avant. Je continue le texte. C'est pourquoi aussi d'un seul homme, plus encore, d'un homme déjà marqué par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable qu'on ne saurait compter sur le rivage de la mer. Verset 12. Abraham a eu de nombreux enfants, Ishmaël d'Agar, Isaac de Sarah, puis après sa mort, il a pris plusieurs femmes, de qui il en a eu bien d'autres qui sont devenus des chefs de tribu. Tous les Arabes sont issus de la magouille de Sarah qui a refilé sa servante Agar à son mari, mais dans la souveraineté de Dieu, le peuple juif existe grâce à la foi d'Abraham. Un père amena son fils, possédé d'un esprit mauvais, à Jésus pour qu'il le guérisse. Après avoir expliqué la condition de l'enfant, cet homme ajouta « Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. » Il va sans dire que le Seigneur n'a guère apprécié ce « si tu peux » et lui a répliqué « Tout est possible à celui qui croit ». La puissance de Dieu est libérée par la foi de l'homme. L'apôtre Paul écrit « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire. » Je continue le texte de l'Épître aux Hébreux. « C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. » Verset 13. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas entrés en possession de la terre promise. Ce n'est que 5 siècles après la mort de Jacob que les descendants de ses 12 fils ont enfin traversé le Jourdain et conquis une partie de la Palestine. Mais les patriarches ne se sont jamais plaints, car par la foi, c'est comme s'ils habitaient déjà la Palestine. En attendant que la promesse de Dieu se matérialise, ils étaient des pèlerins exilés et à ce titre considérés comme des étrangers sans droit, des sans-papiers, un peu comme ceux qui aujourd'hui, de par le monde, atterrissent dans des camps de réfugiés. Mais pour celui qui fait confiance à Dieu, sa promesse équivaut à la réalité, même s'il ne connaît pas les détails du comment cela va-t-il se faire. Je continue. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. Versets 14 à 16. Les patriarches étaient des étrangers en terre promise, mais ils n'ont jamais songé à retourner en Égypte. Ils ont parcouru la Palestine en long et en large, ils y ont fait paître leurs troupeaux, élevé des enfants, et pour eux c'était suffisant parce qu'ils croyaient que leurs descendants hériteraient de ce pays et eux-mêmes avaient en vue leur destination finale, une maison dans les cieux. Je continue. Par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui eut la promesse et à qui Dieu avait dit « C'est par Isaac que tu auras une descendance ». Dieu, estimait-il, est assez puissant pour ressusciter un mort. Et son fils lui a été rendu. C'est une préfiguration. Versets 17 à 19. La foi d'Abraham en l'Éternel est tout à fait exemplaire. Son fils Isaac est né parce qu'il a cru que Dieu pouvait redonner vie au corps usé du vieux couple qu'il formait avec Sarah. Après avoir marché avec Dieu pendant de longues années, Abraham avait expérimenté sa fidélité et il était désormais prêt à lui rendre Isaac en lui tranchant la gorge. Les Écritures ne parlent pas de ses états d'âme quand l'Éternel lui a dit « Prends Isaac, ton fils unique que tu aimes, et va au pays de Moridja. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. » Le texte de la Genèse dit simplement que, le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et emmena deux de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Il est probable qu'une fois le choc initial de la requête divine passé, Abraham ne s'est pas posé de questions. Il s'est dit que l'Éternel étant le Dieu de toute la terre, il savait ce qu'il faisait et ce qu'il demandait était à la mesure de sa grandeur, et qu'il ferait le nécessaire même si cela voulait dire ressusciter Isaac de manière à ce que la promesse que l'Éternel lui avait faite puisse s'accomplir. En conséquence, il a gravi la montagne de Moridja en compagnie de son fils bien-aimé Isaac dans l'intention de l'offrir en sacrifice à l'Éternel. Abraham avait une relation intime avec Dieu, ce qui fait qu'il était sans doute bien versé en théologie. Non seulement il croyait à la résurrection des morts et à la vie éternelle, mais il avait probablement une solide connaissance dans toutes les grandes doctrines contenues dans les textes sacrés. L'auteur de l'Épître dit « Et son fils lui a été rendu, c'est une préfiguration ». En effet, au moment d'égorger son fils, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal ». Car maintenant je sais que tu révères Dieu puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Isaac a été offert, mais pas sacrifié. Il est mort et est revenu à la vie d'une manière virtuelle en quelque sorte, ce qui fait de lui une préfiguration de la résurrection. Cette histoire s'est bien terminée, mais il n'empêche qu'Abraham était bel et bien disposé à sacrifier son fils. Cette obéissance absolue à la requête divine atteste l'authenticité et la profondeur de sa foi. En persévérant pendant 120 ans, Noé est une illustration de la foi dans son étendue et Abraham dans sa profondeur parce que, après avoir marché avec Dieu pendant des années, sa confiance en lui et dans ses promesses était sans limite. L'apôtre Paul écrit « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. » Et Jésus a dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Je continue le texte de l'Épître aux Hébreux. « Par la foi aussi, Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Par la foi, Jacob a béni, peu avant sa mort, chacun des fils de Joseph et s'est prosterné pour adorer Dieu en prenant appui sur l'extrémité de son bâton. Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, a évoqué la sortie d'Égypte des descendants d'Israël et a donné des instructions au sujet de ses ossements. » Versets 20 à 22. Les patriarches Jacob et Joseph sont des illustrations de la foi devant la mort. Tous deux l'ont affronté sans crainte avec une foi confiante en Dieu. C'est pour cette raison qu'ils sont cités dans la liste d'honneur des saints de l'Ancien Testament. Affronter la mort, l'agonie et la destruction du corps n'ont rien de réjouissant, mais Dieu désire que ceux qui lui font confiance quittent ce monde tranquille, toute voile dehors et le pavillon flottant tout en haut du mât. Les croyants devraient pouvoir partir dans l'au-delà sur un air de triomphe parce qu'ils s'en vont pour prendre possession de leur héritage éternel dans les cieux. Quand leur dernière heure a sonné, les patriarches baignaient dans la paix. Bien qu'ils n'aient pas vu les promesses de Dieu se réaliser, ils les avaient reçues par la foi et les ont transmises à leurs enfants par la foi. Ils leur laissaient l'héritage des promesses que l'Éternel avait faites à Abraham. Dieu lui avait promis que ses descendants deviendraient une nation puissante, qu'elle posséderait le pays de Canaan, et que le monde entier serait béni par sa postérité. Mais Abraham n'a rien vu de tout ça. Isaac, un tout petit peu, Jacob, un peu plus, et Joseph, bien davantage. Précédemment, l'auteur a dit « C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. » Ce verset s'applique très bien aux patriarches. Contrairement à ceux qui meurent désespérés à cause de rêves non réalisés, ils sont partis dans la foi, confiants dans les promesses de Dieu qui s'accompliraient. L'auteur fait la démonstration à ses lecteurs hébreux que depuis les temps les plus reculés de leur histoire, c'est par la foi en l'Éternel que leurs ancêtres ont fondé la nation d'Israël, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Après Abraham, le prochain héros que l'auteur mentionne est Isaac, qui par la foi a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Isaac a vécu plus longtemps que les autres patriarches, et pourtant les textes sacrés ne parlent guère de lui. Parce qu'il était du genre passif, moins coloré que les autres patriarches, et de nature peureuse, malgré les promesses que l'Éternel lui avait faites. Mais à sa décharge, il faut dire qu'il n'a jamais fait qu'imiter son père Abraham, qui, quand il a craint pour sa vie, a menti à deux reprises au sujet de sa femme. Isaac était foncièrement un jouisseur. Comme son estomac passait avant Dieu, il préférait son fils Ésaü parce qu'il ramenait du gibier à la maison. Isaac était rebelle. Il ne pouvait pas ne pas savoir qu'Ésaü avait vendu son droit d'aînesse à son frère Jacob et que l'Éternel avait choisi ce dernier comme héritier des promesses. Pourtant, Isaac a voulu donner la bénédiction patriarcale à Ésaü parce qu'il l'aimait davantage. À cette occasion, toute la famille s'est comportée d'une manière honteuse. En effet, au lieu de faire confiance à Dieu, Jacob et sa mère ont magouillé et sorti le grand jeu afin de tromper Isaac qui était aveugle. Si la foi d'Isaac en l'Éternel était faible, elle existait quand même. Et elle a particulièrement brillé quand il a accepté sans résister d'être immolé par son père au sommet de la montagne de Morija. Comme il devait avoir la trentaine, il aurait facilement pu maîtriser Abraham, qui alors avait plus de 130 ans. Mais il s'est soumis docilement à la volonté de Dieu. Puis, quand est venu le moment de bénir ses deux fils, c'est par la foi qu'Isaac a proclamé que l'Éternel accomplirait les promesses à sa manière et en son temps. Je continue le texte. Par la foi, Jacob a béni, peu avant sa mort, chacun des fils de Joseph et s'est prosterné pour adorer Dieu en prenant appui sur l'extrémité de son bâton. Verset 21. Individu très coloré, Jacob est une bonne illustration des travers de la nature humaine et de l'action de la grâce de Dieu dans la vie d'un homme retors. Dieu seul peut prendre un être humain tordu, le redresser et en faire un instrument à sa gloire. Avant même de naître, Jacob s'est bagarré avec son frère Ésaü dans le ventre de leur mère, et bien qu'il soit né en second, il tenait fermement le talon d'Ésaü. Jacob était un homme sournois, sans mérite personnel, car il ne vivait que pour lui-même. Grand manipulateur devant l'Éternel, il a même marchandé avec lui. Mais l'Éternel lui a enseigné que c'est en luttant avec Dieu et non pas contre les hommes qu'il obtiendrait ce qu'il voulait. Dans ce but, l'ange de l'Éternel a attaqué Jacob, qui l'a retenu dans une lutte qui a duré toute la nuit. À cette occasion, Jacob a dit à l'ange, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. » Et il a reçu ce qu'il désirait, mais en contrepartie, il a été blessé à la hanche et fut boiteux pour le reste de sa vie. Dieu veut que nous soyons déterminés et persévérants avec lui. C'est l'audace de la foi qui appelle les bénédictions célestes. Bien que Dieu ait promis sa bénédiction à Jacob, ce dernier ne pouvait pas attendre et la vola à son père en le trompant d'une manière odieuse avec l'appui de sa mère. Mais comme on dit, il ne l'a pas emporté au paradis, car cette mauvaise action lui est revenue en pleine figure à la fin de sa vie en ses propres fils. Tout a commencé quand Jacob a imité son père Isaac en montrant sa préférence pour Joseph par rapport à ses 10 autres fils. Ces derniers ont alors pris leur jeune frère en grippe et ont voulu le tuer pour finalement le vendre à une caravane se rendant en Égypte. Ensuite, les frères ont trompé leur père Jacob en trempant son manteau bigarré dans le sang d'un animal égorgé pour lui faire croire que Joseph avait été déchiré par une bête féroce. Les fils de Jacob se sont conduits envers leur père exactement comme lui s'était comporté envers Isaac, ce qui confirme bien le proverbe « tel père, tel fils ». Cependant, et contrairement à son propre père, Jacob n'a pas essayé de faire dérailler le plan de Dieu. Alors qu'Isaac avait tenté de bénir Ésaü, sachant fort bien que c'était son frère qui était le porteur des promesses divines, Jacob, lui, a béni ses fils en suivant l'inspiration que lui a donnée le Saint-Esprit. L'auteur mentionne spécifiquement Joseph parce qu'il a reçu une double bénédiction dans le sens que ses deux fils sont chacun devenus chefs de tribu. Mais alors, et je fais une petite parenthèse, si Jacob a eu 12 fils, Israël aurait dû compter 13 tribus. Non, parce qu'il faut enlever les descendants de Lévi qui n'ont pas eu d'héritage et qui étaient éparpillés dans tout le pays. J'ajouterai que dès l'entrée des Hébreux en terre promise, Siméon a été rapidement assimilé à la tribu de Juda et a donc plus ou moins disparu. Plus tard, quand le royaume s'est scindé en deux, au sud, il y avait Juda allié à Benjamin et au nord, il restait 9 tribus. Le compte est bon. Au seuil de la mort, c'est quand même avec foi que Jacob a béni Joseph et lui a dit « Je vais bientôt mourir. Dieu sera avec vous et vous fera retourner au pays de vos ancêtres. Quant à moi, je te donne une part de plus qu'à tes frères, Sichem que j'ai conquis sur les Amorites avec mon épée et mon arc. » Comme Abraham et Isaac, Jacob ne possédait pas non plus la terre promise, mais il l'a quand même transmise à ses fils par la foi. Je continue le texte. Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, a évoqué la sortie d'Égypte des descendants d'Israël et a donné des instructions au sujet de ses ossements. Verset 22. Joseph était un véritable homme de foi. Les Écritures ne lui attribue aucune faute, sinon peut-être quand, adolescent, il s'est fait mousser devant ses frères et ses parents à cause d'un rêve qu'il a eu et selon lequel un jour toute sa famille s'inclinerait devant lui, ce qui est effectivement arrivé. Joseph est souvent considéré comme une image de Jésus-Christ parce qu'il existe beaucoup de similitudes entre eux. Par exemple, comme Jésus, Joseph était le fils obéissant et bien-aimé de son père. Et pour cette raison, ses frères le haïssaient et ont comploté sa mort. C'est aussi ce qu'ont fait les religieux juifs envers Jésus. Joseph fut trahi par ses frères et vendu comme esclave, et Judas agit de même envers Jésus qu'il a vendu pour 30 pièces d'argent. Alors qu'il était en Égypte, Joseph a épousé une femme païenne hors de l'alliance entre l'Éternel et Abraham. L'Église, qui est appelée l'épouse de l'agneau, c'est-à-dire du Christ, est elle aussi composée en majorité de gens issus de milieux non juifs, extérieurs à l'alliance. Après avoir été vendu comme esclave, Joseph a été injustement accusé et jeté dans un cachot. Mais il a toujours eu foi en l'Éternel, qui l'a béni, et fit de lui l'intendant de l'Égypte où il a passé toute sa vie d'adulte. Alors que Joseph était l'héritier de la promesse que 200 ans auparavant l'Éternel avait faite à son aïeul Abraham, il ne pouvait même pas dire qu'il y ait vraiment habité. Et d'ailleurs, au moment de sa mort, aucun descendant d'Abraham ne s'y trouvait. Mais si Joseph ne pouvait pas personnellement hériter la terre promise, son cœur et son espérance y étaient et il voulait au moins que ses os y soient enterrés. C'est par la foi qu'il a dit aux Hébreux, « Lorsque Dieu interviendra pour vous, vous emporterez d'ici mes ossements. » Effectivement, au moment de l'Exode, quand les Hébreux ont quitté l'Égypte, ils ont pris soin d'emmener avec eux les os de Joseph. Joseph a regardé de loin le pays de la promesse, mais il l'a vu et au moment de quitter ce monde, il a dit « Je vais mourir, mais Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur et vous fera remonter de ce pays vers celui qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph était un homme remarquable, droit comme un i. Alors que son père Jacob et grand-père Isaac laissaient beaucoup à désirer. Pourtant, au seuil de la mort, l'épreuve suprême de la foi, tous trois étaient remplis d'espérance et avaient une pleine confiance en l'Éternel.